L'autre moyen objectif, ce sont les sages. En fin de compte, c'est nous qui sont responsables de nos actions. C'est nous qui prenons les décisions. Mais nous sommes la plupart du temps très loin d'une perception de nous-mêmes et de notre but qui est clair et vrai. Le miroir de notre esprit est troublé par des motivations diverses, des conflits intérieurs, la peur des autres, peur du changement, du nouveau, la confusion, l'ignorance, la haine. Il est donc important d'avoir un ou plusieurs de ces sages vers qui tourner, non pas pour qu'ils décident à notre place, mais pour nous aider à clarifier notre esprit, de façon à ce que nous puissions décider. L'homme sage, dit le Bouddha, ou la femme sage, est caractérisé par ses actes. Ses pensées sont bonnes, ses paroles sont bonnes, ses actions sont bonnes. Ce qui rend une action bonne d'un point de vue bouddhiste, c'est l'état d'esprit qui est à son origine, c'est sa motivation. Une action est mauvaise quand elle est motivée, quand elle est empoisonnée par le désir, la haine ou l'ignorance, dans le sens d'idées fausses ou erronées. Quand une action est motivée par le contentement, la bonté, l'amour, la sagesse ou la connaissance, cette action est bonne. Donc nous ne pouvons pas nous fier seulement aux apparences. Par exemple, on pourrait penser que vous parler du choix d'une voie spirituelle, comme je le fais ce soir, est une bonne action. Mais je peux le faire motivé par le désir de vous impressionner, d'avoir l'air importante. Je le fais pour moi, en quelque sorte, pour une satisfaction personnelle. Ou je pourrais le faire pour couvrir un complexe d'infériorité. Je ne m'aime guère et parler du bouddhisme me donne l'impression que je vaux quelque chose. Ou alors, je pourrais aussi le faire parce que je me crois parfaitement éveillée, c'est-à-dire sous l'emprise de l'ignorance. D'autre part, on peut aussi imaginer que l'on peut frapper un enfant, par exemple, motivé, pas trop fort, motivé par l'amour, le contentement et la sagesse. Il n'est donc pas facile non plus de savoir qui sont ces sages, puisque pour être sûr, nous devons aussi savoir ce qui les motive. Donc le sage est pour nous quelqu'un que nous connaissons bien. Et nous voilà de nouveau avec nous-mêmes et notre expérience. Nous avons été témoins de leur vie longtemps, nous avons vu vivre de près, et nous n'avons pas remarqué de différence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, entre qui ils sont et ce qu'ils font. Plus nous les connaissons, plus nous leur faisons confiance, et ils n'abusent jamais de cette confiance. Plus nous les aimons et leur faisons confiance, plus nous gagnons un sens positif de nous-mêmes. Il nous aide à grandir, à mûrir, à nous développer, à nous améliorer. Donc il est possible qu'il n'y ait pas de sage dans notre vie. Il n'y a peut-être personne que nous connaissions suffisamment intimement pour pouvoir vraiment dire « ces actions sont l'expression du contentement, de l'amour, de la sagesse ». Donc, où trouver ce sage, ces sages, plus près de nous? Dans un ami. Dans quelqu'un qui, au moins quand il s'agit de questions importantes pour nous, est capable de mettre ses intérêts, ses gains, ses croyances personnelles de côté, capable de ne rien vouloir pour lui ou elle, de ne vouloir que ce qu'il y a de meilleur pour nous, et donc d'être guidé, au moins pour un temps et envers nous, par la générosité, la bonté et la sagesse. L'ami nous aide à devenir nous-mêmes, pas une réplique de lui-même. Nous aide à nous connaître et nous aide à faire nos choix nous-mêmes. Donc j'ai essayé de vous donner une réponse bouddhiste. Je voudrais aussi vous donner la réponse d'une bouddhiste, c'est-à-dire une réponse basée sur ma propre expérience du choix d'une voie spirituelle. Mais d'abord, je n'étais pas consciente que je cherchais quelque chose. Je savais, comme je l'ai dit, je savais surtout ce que je ne voulais plus. Et je voulais aussi méditer. Je voulais méditer parce que je voulais apprendre à me concentrer. J'avais l'esprit trop... trop dispersé. Oui, je voulais apprendre à me concentrer. Et donc j'ai appris à méditer dans un centre des amis de l'ordre bouddhiste occidental en Angleterre. Et c'est donc de cette façon-là que je suis rentrée peu à peu en contact avec le bouddhisme. Donc j'ai pas eu l'impression de choisir, je me suis trouvée dedans, disons, comme par hasard. Un terme qui décrit mieux mon expérience, c'est un terme de réponse ou de résonance, même de reconnaissance ou correspondance. C'était en quelque sorte comme si j'étais chez moi, dans un terrain familier. Et j'étais attirée de façon profonde, intuitive, émotionnelle. C'est en quelque sorte la réponse de la foi, qui dans un certain sens n'a pas besoin de la raison, pour savoir que c'est vrai et noble. Néanmoins, ce n'était pas une foi aveugle. J'avais toujours ma raison et mon expérience sur lequel m'appuyer. L'expérience de ma vie, j'avais appris à faire confiance à mon intuition. Je savais que je n'étais pas naïve ni intempestive. Mais aussi parce que j'étais déjà arrivée moi-même à des conclusions qui étaient en accord avec les doctrines bouddhistes. Et je pouvais dire, je sais que cela est vrai. Cela fait partie de mon expérience. Donc pour moi, il n'y a pas eu tellement une question de choix, de voie spirituelle. En quelque sorte, je suis un peu tombée sur une voie. Le choix fut sans doute plus pour moi entre la façon de pratiquer le bouddhisme, à la tibétaine ou de façon plus occidentale. Et pendant quelques années, j'essayais de parcourir les deux voies en même temps. Heureusement, elles sont parallèles, elles vont dans la même direction, mais elles sont quand même différentes. Émotionnellement, je pensais plus du côté tibétain, mais plus je pratiquais d'une façon ou d'une autre, plus il devenait évident que je changeais bien plus radicalement, que je m'améliorais davantage en suivant la voie, les méthodes de l'ordre bouddhiste occidental. C'est donc cette voie que j'ai choisie pour me conduire à la liberté, au contentement, à la compassion. C'est des aspects de l'état du Bouddha qui m'attirent. Mais ce choix réel, je le fis vraiment qu'après 3 ans de pratique. Donc bien que la réponse bouddhiste à la question « Comment choisir une voie spirituelle ?» est nulle part ailleurs qu'en nous-mêmes, qu'en notre expérience. J'espère néanmoins, si cette question est la vôtre, que vous vous sentez moins seul avec, plus confiant en votre capacité de faire un choix, et un bon choix, et que vous êtes inspiré par l'idée que ce choix est votre responsabilité, stimulé par le désir de mieux vous connaître dans toute votre grandeur, votre totalité, votre complexité. J'espère surtout que vous êtes plus confiant en votre capacité de faire un bon choix, parce qu'il sera l'expression d'une vision, d'une expérience profonde de ce qui, pour vous, est vrai et réel. Une dernière remarque. J'ai parlé de choisir avant de s'engager, comme si c'était quelque chose que l'on fait une fois pour toutes. Mais quelle que soit la voie que nous choisissons, et ça peut... c'est quelque chose qu'on peut faire même pas dans le contexte d'une voie spirituelle. Je crois qu'il est important de continuer à nous poser les mêmes questions qu'au début. Quel est mon but? Pourquoi est-ce que je fais ça? Ce que je fais m'y mène-t-il? Une voie spirituelle, une religion, n'est pas une fin en soi. C'est un moyen. Ce sont des pratiques et des méthodes qui conduisent au développement spirituel de l'individu. Les pratiques même qui aident au début peuvent devenir une entrave au développement. Ce qui était une voie est devenu une prison. Par exemple, la méditation. On peut commencer plein d'enthousiasme, on a des expériences profondes, on se découvre, on semble comprendre un peu mieux un sens de l'existence, et on change pour le mieux. On devient plus patient, plus concentré, plus calme, plus capable de choisir, plus avoir un sens de contrôle dans sa vie, de choix. Donc on continue, tous les jours, pendant longtemps, et on continue à méditer tous les matins, disons, longtemps après que la méditation ait cessé d'avoir un effet positif. On ne sait même plus pourquoi on médite. La méditation est devenue rigide, morte, mais on a peur de l'abandonner, elle est devenue une habitude. Elle est devenue moi, ça fait partie de nous-mêmes. L'abandonner serait ne plus se reconnaître. Ce qui était plein de vie et un moyen d'atteindre le plus profond, de développer le plus noble en soi, est devenu un moyen de se cacher. Parce qu'on ne s'est pas aperçu que ce qui n'était qu'un moyen est devenu une fin en soi. Et c'est pour cela que le Bouddha dit de son enseignement qu'il est comme un radeau, quelque chose qui supporte, qui est utilisé pour une traversée, et que l'on laisse derrière quand il y a besoin, pas qu'on pense sur sa tête. C'est aussi pourquoi un maître bouddhiste zen dit à ses disciples, pour qu'ils ne perdent pas de vue la raison d'être des pratiques religieuses, si tu vois le Bouddha, tue-le. Voir le Bouddha, c'est la complaisance. C'est la complaisance spirituelle. C'est croire qu'on est arrivé, qu'on a tout compris. Et ceci nous cache en fait le Bouddha, nous empêche d'aller plus loin. Le tuer veut dire tuer en nous la fierté, l'ignorance, la peur de l'inconnu, la peur d'aller plus loin, la peur de la réalité. Donc pour conclure, sans entraver votre foi, votre imagination, votre enthousiasme, il est important de ne jamais perdre notre esprit critique, d'être prêt à tout remettre en question. Je parle d'une voie, mais une voie spirituelle n'est pas un boulevard bordé d'arbres. Ce n'est pas une autoroute avec des pancartes grosses et nettes qui indiquent Nirvana 100 km. Mais bien plutôt un chemin tortueux, à travers jungles et marais, que nous suivons souvent à tâtons et dans l'obscurité. Cette voie, c'est nous-mêmes. Et je vous souhaite de la suivre comme une aventure, passionnément, et d'arriver au meilleur de vous-même.
Et là, ce soir, envoyer un peu de brosser un peu. On va ouvrir ça à vos questions.
Oui, oui.
Des réflexions. Mmh.
Moi, je veux bien m'exprimer. Quand je vous entends parler, en fait, je ne suis pas du tout initiée au bouddhisme. Mais tout ce que vous avez dit, en fait, ce sont déjà des questions que je me pose. Hein, sans connaître le bouddhisme, alors est-ce que c'est une philosophie? Est-ce que c'est vraiment une religion?
Oui, parce que là, je ne dis pas ce qu'est le bouddhisme. L'exposé, c'est en quelque sorte comment choisir une voie spirituelle. Chacun choisit la sienne. Et maintenant, vous voulez, qu'est-ce que le bouddhisme? Est-ce que c'est la question que vous posez? C'est une voie, justement. Le bouddhisme, c'est une de ces façons de changer. Sont des méthodes, des pratiques qui nous emmènent, disons, au plus parfait de nous-mêmes, au meilleur de nous-mêmes, pas à pas, sans arrêt, disons, s'améliorer à l'infini. Donc on peut dire que le bouddhisme, c'est toutes ces pratiques qui, comme je dis, de la pratique, tout simplement de faire attention à ce qu'on mange, de faire attention à ce qu'on parle, la pratique d'une conduite d'éthique qui est basée sur la non-violence, de faire mal à personne, faire mal à soi-même. Tout ça font partie de ces pas, disons, sur une voie qui nous conduit au meilleur de nous-mêmes. Sans qu'il y ait ce meilleur, il peut être là, au plus loin, on a en quelque sorte une vision qu'il y a plus en nous, qu'on peut se développer en quelque sorte indéfiniment. Et donc le bouddhisme sont toutes ces méthodes qui... ça. De façon très générale, hein, on peut pas mettre. Il y a des livres écrits comme ça. Il y a des écoles différentes de bouddhisme. Mais juste pour vous donner une idée, que c'est quelque chose qui se pratique, c'est quelque chose qui se suit et qui amène à une amélioration sans arrêt continue, qui conduit à l'opposé, donc de la haine, de l'attachement, du désir, la convoitise et de l'ignorance dans le fait d'être aveugle, de ne pas être clair ou d'avoir des pensées fausses, et qui remplace ça par la sagesse graduelle, la générosité, la bonté.
Je comprends les questions, en fait, parce que c'est vrai que c'est pas évident, c'est parce que choisir. C'est très bien, mais bon, il faut se donner même de prendre le chemin, c'est très difficile avec des questions comme ça. Moi j'ai toujours du mal, moi c'est censé être le sujet du mal.
Oui, tu donnes la...
Qu'est-ce que c'est le bouddhisme?
Qu'est-ce que le bouddhisme? Oui.
Merci.
On est de neuf.
Oui.
Mais c'est parce que bon, comme le bouddhisme est essentiellement quelque chose de pratique, quelque chose d'expérience, donc c'est très difficile de donner un sens à quelqu'un d'autre seulement avec des paroles.
Oui.
On peut approcher avec la poésie, peut-être. Qui, pour moi, exprime ça très bien, qui donne un certain sens. J'ai toujours trouvé, c'est pas une bonne chose, en fait, que mes paroles, c'est... Parce qu'on a tellement d'esprit qui a tendance à transformer ce qu'on entend. On filtre beaucoup et on interprète. Voilà, on interprète, c'est-à-dire qu'on accepte ce qu'on a envie d'entendre et on le fait inconsciemment, parce que quand on dit, c'est Et c'est pas le problème pour vous. C'est pour ça qu'un conférence comme ceci est très. C'est un grand défi, ce point de vue, pour exprimer ça. Mm. C'est pour ça d'ailleurs on a un peu structuré ce week-end, un peu ce soir, une conférence. Il n'y a pas vraiment d'engagement. Demain, c'est plutôt pratique, c'est plutôt une méditation, une discussion plus sur le sujet, plus sur le rythme. J'ai institué ça exprès, comme ça, donc, si vous pouvez revenir demain, ça sera plus attaqué un peu mieux.
Ces mots quand même évoquent, comme je disais, comme une réponse de ou lire, je disais des textes bouddhistes, et vous savez, est-ce que ça touche quelque chose? Ça, c'est pas censé que ça touche que la raison. Quelque chose qui sait que... c'est vrai.
Ouais, l'intuition.
Oui. Puisque moi j'ai appris à faire confiance en cette part, cette intuition. En quelque sorte, il est aussi important de ne pas la négliger ou de ne pas en avoir peur. Tout est-ce que ça vient ou c'est pas assez, si c'est pas, disons, approuvé ou même prouvé par ma raison, je n'agis pas dans ce qui est de plus profond, sur ce qui est d'après ce qui est de plus profond, plus noble en moi, la vision. C'est à ce moment-là. Ben, disons notre on la développe pas, hein, on la rend, ce qu'il y a de bon en nous, on le rend en quelque sorte plus. On ne développe pas cette faculté, et plus on la développe, plus elle devient présente. dedans. C'est-à-dire, plus elle devient de moins en moins séparée de la raison. En quelque sorte, c'est la réponse de l'émotion, c'est la réponse émotionnelle, c'est la réponse de la foi. Et elle n'est pas finalement séparée de la réponse raisonnable, de la réponse intellectuelle. Elle donne simplement l'impression d'être séparée. Donc, en quelque sorte, je dis, je n'allais ni que d'un côté de la tête, ni que par le cœur, ni que par la tête, mais les deux doivent être respectés. Et si les deux sont d'accord, eh bien, on a déjà un peu plus de chance, avec en plus de ça les amis. Là, l'expérience, donc ça nous donne notre raison, ce qu'on sait avec notre intellect, ce qu'on sait, disons, avec le cœur, les amis et l'expérience. On peut penser à tâter une voie ou une autre, l'antenne inquisiteur.
Il faut se forcer un peu aussi, je pense. Enfin,
se forcer dans le sens de...
on a toujours peur au début. Donc tu dis l'orteil inquisiteur.
Oui.
Mais même de mettre l'orteil inquisiteur, parfois on peut se rétracter. Parce qu'on ne peut pas... C'est mon expérience aussi. J'habite en Angleterre aussi et je suis le mouvement. Et au début, ça me faisait énormément peur. Je mettais mes orteils, mais je me disais... Je peux pas m'engager là-dedans parce que c'est quelque chose que je connais pas du tout. Mmh. Mais maintenant que je me suis forcé un peu, quand je me suis poussé un peu, fait un peu mal pour rentrer dedans, je m'aperçois que de toute façon, à chaque fois qu'on prend une décision, on s'engage envers quelque chose qu'on connaît pas, quelque chose de complètement inconnu. Mais si on prend pas de risque, si on se force pas, on fait jamais rien.
Oui.
Et c'est uniquement. C'est uniquement en se forçant, en prenant un peu de risque et en s'engageant vers quelque chose qui semble un peu inconnu, mais qui répond, qui résonne un peu à l'intérieur, que on obtient des résultats. Et je dois dire que ça fait un an et demi maintenant que j'ai commencé à... J'espère que j'ai mis un peu plus que les orteils maintenant. Je me rends compte par discussion avec mes amis ou juste en réfléchissant sur mon propre compte que j'ai vachement changé, quoi. Que j'ai fait le bon choix, quoi. Alors je continue à me forcer un peu pour pousser un peu plus à repousser les limites de la peur.
Oui.
Parce que je crois que c'est la peur qui nous domine le plus.
Oui.
Et qui nous empêche de faire qui nous empêche de progresser.
Oui. C'est un bon point. Mais il est aussi important d'aller à son rythme. Hein. Se forcer, oui, c'est-à-dire oser. Mm. Autrement, on dirait...
Ah, pas trop non plus.
Mais pas trop non plus, parce qu'autrement... Autre rythme.
Je pense que sur un sujet, tout à l'heure, vous évoquiez l'ordre tibétain, je sens très différent entre l'ordre tibétain et l'ordre bouddhiste occidental. Quelle est la différence entre ces deux lois?
Par façon de pratiquer. Disons que nous pratiquons tous la méditation, le chemin, disons, les stades sur cette voie, si on continue l'analogie de la voie pour le bouddhisme, sont les mêmes. Mais c'est pratiqué par des Tibétains. Donc les Tibétains, ils ont un certain tempérament, ils ont une certaine histoire. Et chaque fois que le bouddhisme est allé dans un pays, il a des entrées. Et quand le bouddhisme est allé au Japon, il est parti des Indes au Tibet, il a changé. Il est parti des Indes à la Chine, il a changé. De la Chine au Japon, il a changé. C'est-à-dire que le bouddhisme occidental, c'est un bouddhisme qui est pratiqué par des occidentaux. C'est-à-dire que nous cherchons la façon de... Qu'est-ce que ça veut dire pour nous de pratiquer ces mêmes méthodes, ce même genre de méditation, mais pas...